Regarde la couleur de ce lait.
Ah, c'est du petit lait, ça.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Elle avait une drôle de voix, Maïté.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est votre nouveau rendez-vous, soirée coup double sur France Inter ce soir. Chaque jour disponible dès 18h en podcast avant le passage antenne, 22h minuit. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. C'est bon de vous voir rire, Benoît Lagarde.
Oui,
j'aimerais jouer. L'actualité ce soir, elle est charpentée. Le vin crève l'écran aujourd'hui, sorti en salle du film documentaire Vitis Proita, tourné en Ardèche. La semaine prochaine, ce sera le tour du film L'âme du vin, tourné en Bourgogne. Et puis, il y a un livre, La vie mystérieuse du vin. Alors, ce soir, plein de questions. Il y aurait des cépages interdits, des vins de mauvaise réputation, et puis de l'autre côté, des vins mythiques et mystiques. Quel avenir économique pour le vin français concurrencé? Quel est le défi sur le plan écologique? Et qu'a fait boire Macron aux Chinois, Benoît Lagan?
Pour en parler, Stéphane Ballet, réalisateur donc du film Vitis Prohibita, qui sort donc aujourd'hui, Prohibita, ou
oui, c'est vrai, c'était une consonant moi. C'est ça. Une voyelle.
Marie-Ange Gorbanowski, réalisatrice de L'âme du vin, c'est plus facile à dire. Bruno Quenu, éminent spécialiste, qui publie donc cet automne ce livre La vie mystérieuse du vin aux éditions du Cherche Midi. Et puis Philippe Toinard, rédacteur en chef de la revue 12 degrés 5, mais aussi 180 degrés, mais aussi de plein de livres qui sortent en ce moment.
Sur le plan musical, Marion Guilbeault, qu'est-ce que vous avez planté?
Alors, c'est pas les spécialistes du vin, loin de là. Hein. Chez eux, on boit plutôt de la bière artisanale, je crois. Ils sont québécois, c'est la nouvelle sensation là-bas. Ils s'appellent les Louanges et ils sont en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le Énervé la suite. France Inter plus de Toulouse-Lautrec ce soir qui nous emmène en bas de Montmartre au Moulin Rouge. Du vin, des danseuses, des clients, portrait de Lautrec en petit bonhomme. Et oui, c'était le surnom de la mascotte des danseuses du Cancan. Le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Alors je récapitule parce que t'as pas tout bien dit. Deux documentaires très différents au cinéma, une revue saisonnière qui numéro après numéro ne cesse de défendre sa vision des vins et un essai qui explore le mystère mystique du vin. Autant d'approches différentes en ce mois de novembre pour tenter de percer le mystère de cet emblème français. Benoît Quenu, dans votre livre La vie mystérieuse du vin, vous rappelez qu'en France on a longtemps distingué le vin des alcools. Qu'est-ce qu'on boit? On parle du vin ou de l'alcool? Mais qu'aujourd'hui on l'utilise moins, cette distinction, parce qu'on a rabaissé le vin à n'importe quel alcool par la bienséance.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, le vin a toujours été considéré comme un alcool complètement à part, une boisson à part, une boisson mystique. Et c'est récent, c'est tout simplement, tout doucement, avec une vision matérialiste du vin, qu'on l'a rangé au même degré que les alcools. Mais l'ivresse du vin n'a rien à voir avec l'ivresse des alcools, surtout les alcools qu'on fait boire aujourd'hui à nos jeunes, pas que dans les discothèques, même dans les universités. Donc ça, c'est plus dramatique. Et on les désapprend au vin, justement. Le vin, c'est la culture, c'est vraiment un produit complètement à part. C'est un produit qui raconte le terroir depuis l'Empire chrétien, puisque à partir de l'Empire chrétien, l'ivresse va changer de vision. On va passer d'une ivresse qui confond l'alcool et le message du vin, l'ivresse spirituelle et l'ivresse de l'alcool, alors qu'à partir du moment où l'Empire chrétien, les moines de Cluny et de Citeaux vont se lancer dans une véritable quête d'alchimie, je dis bien le mot, c'est très sérieux, d'alchimie, puisqu'à l'époque, l'alchimie et l'Église ne sont pas en confrontation, et donc ils vont essayer de révéler la lumière de la matière et d'en faire quelque chose qui va sublimer l'homme plutôt que de l'alcooliser, même s'il y a de grands alcools, mais ça ne peut pas atteindre cette ivresse du vin. Voilà.
Emmanuel Macron en Chine, il a fait goûter quoi? Vous savez, autour de la table?
Alors, j'ai une antisèche.
Ah, vous n'avez même pas, ça vous a pas intéressé. Macron va en Chine, il fait goûter du vin aux Chinois, voilà. Ça vous intéresse pas?
Bah, moi, je vais vous les donner, vous allez peut-être les commenter.
Sans crier, ben.
Voilà, oui, c'est vrai, sans crier, ça sert à rien. C'est parce que j'ai pas encore bu, c'est pour ça.
Après, le volume sonore descend, en général.
Il est bourré avant même.
C'est le contraire chez lui.
Consternant. Donc, voilà. Un cheval blanc, un Bordeaux. Voilà. Un château Corton, de Bourgogne. Et l'hospitalier de près de Narbonne.
D'accord. Alors, Gérard Bertrand, oui, d'accord.
Voilà. Donc, alors, okay. Et alors, ça vous paraît quoi? C'est des bons vins à faire goûter aux Chinois?
Alors, je ne sais pas, le Corton de chez qui il était.
Le Grand C.
Comment? Corton Grand C, oui, ça c'est un cru, c'est
voilà,
pas le nom
mais
du...
j'ai pas le nom.
Mais si on n'a pas le nom du producteur, en Bourgogne, on ne peut pas dire à l'avance si c'est un vrai grand vin ou pas. Voilà, parce que ça dépend de la pratique du vigneron, s'il respecte le terroir ou il ne le respecte pas.
Le cheval blanc?
Cheval blanc, c'est un vin qui est très bien fait sur le plan technique, qui est un vin qui s'est voué depuis les années 90 à la dégustation, un peu plus tard, il a commencé un peu après les autres, c'est-à-dire pour ressembler à ce que les gens, les chroniqueurs aiment, c'est-à-dire la dégustation matérialiste. On va avoir des tanins, de la rondeur, etc. Mais c'est des gens qui ont tout doucement oublié cette relation au terroir. C'est-à-dire qu'on pense au dégustateur et on ne pense plus au terroir. Donc c'est des gens qui font des vins très prestigieux, mais et c'est pour ça qu'en ce moment Bordeaux souffre. C'est parce que les étendards de Bordeaux ont perdu pied, ont perdu leurs racines. Et tout doucement, on fait des vins. Effectivement, quand on les déguste, en dégustation classique, ça va être des vins, des très très grands vins. Mais pour le noble buveur, celui qui boit l'âme du vin, il va être frustré souvent.
Qu'est-ce que vous auriez apporté aux Chinois, vous, Philippe Toinard?
Si on devait rester dans le Bordelais, je leur ai peut-être servi un Pontet Canet en biodynamie pour qu'ils voient un peu ce que c'est que la biodynamie, notamment dans le Bordelais, parce que c'est quand même pas le point fort des Bordelais, donc il y a moyen peut-être de souligner qu'on peut le faire là-bas. Un vin de clos, parce que c'est toujours assez prestigieux de rappeler l'importance des clos en France, notamment, par rapport aux moines de Cîteaux que Bruno citait. Et puis une petite coulée de Séran, ça aurait été bien aussi.
Quel est le message que Macron veut faire passer aux Chinois avec ses vins prestigieux ?
Voilà, on est plus dans le côté faire valoir économique que dans une idée de terroir et culturelle, je pense. C'est
un cheval blanc, ça se monte à combien ?
On est tout de suite dans les 700 euros.
C'est ça. À la fois, c'est un président qui a montré son goût pour le vin, contrairement à d'autres qui ont plutôt attaqué le vin et qui l'ont mis, comme vous disiez tout à l'heure, dans l'ensemble des alcools. C'est plutôt un bon président pour le monde du vin, non ?
Oui, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas un bon représentant pour la dive bouteille.
Il n'est pas aidé par sa ministre de la Santé, en revanche, qui est...
Oui.
Madame Buzyn n'est quand même pas très pro-vin, puisqu'elle l'a même fait ôter des tables du ministère.
Ah ouais ?
Oui, et elle n'est pas tout à fait d'accord non plus avec le ministre de l'Agriculture.
Oui, exactement.
Et Stéphane Ballet, vous auriez apporté, vous, aux Chinois, la bouteille que vous avez devant vous et que Bruno va ouvrir pour l'aérer, pour qu'on puisse le déguster tout à l'heure.
Est-ce que vous auriez apporté ?
Oui, un vin d'Isabelle, un cépage très particulier et un cépage interdit chez nous, en Europe. Voilà.
Interdit pour quelle raison ?
Ah, pour c'est une interdiction qui remonte aux années 30 et qui a été mise en place avec 6 autres cépages pour réguler la surproduction. Voilà, ce sont des cépages qui sont venus des Amériques et qui ont au milieu du 19e siècle amené des maladies, le phylloxéra, le mildiou, l'oïdium, et qui malgré ce désastre et cet effondrement de la viticulture ont permis le renouveau des vignobles parce que ce sont des cépages qui sont naturellement résistants. On pourrait dire qu'ils étaient porteurs sains, finalement. Et on a trouvé chez eux des vertus de résistance et naturelles. Et du coup, la production est repartie très, très fortement. Et on s'est retrouvé à l'inverse avec une surproduction qu'il a fallu réguler.
On va parler tout à l'heure de ces vins interdits. Bruno Kenyou, vous êtes fils de vigneron. Vous avez commencé dans le métier en 1983. Je n'étais pas né. Caviste, conférencier.
Une réflexion. Benoît,
on n'est pas filmé, mais votre regard en disait beaucoup.
Tant que c'est mon regard et pas
c'est
mes cheveux,
c'est déjà pas mal. Je suis juste le vieillard de la table.
Caviste, conférencier, passionné de vin depuis toujours. Vous écrivez que c'est en buvant un Corton 1976 que vous avez eu l'impression de ne jamais avoir bu de vin auparavant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on boit un tel vin ?
C'est-à-dire qu'en fait, mes parents, mon père était un grand passionné de vin et ma mère de cuisine, dans une région pauvre, on était dans une ferme isolée, en Sologne viticole, dans l'appellation Cheverny. Et donc on avait beaucoup de clients qui étaient très passionnés, évidemment, et qui venaient acheter les vins. Et le samedi midi, c'était la grande table avec les clients qui venaient manger et qui amenaient des bouteilles. Alors ils amenaient des grands Bordeaux, des grands Châteauneuf du Pape, etc. Et puis ils finissaient le repas en disant « Ah oui, mais le Bourgogne, c'est autre chose ». Et nous, on avait 12-13 ans et on trempait déjà les lèvres dans le vin. Et même à la demande de notre père, hein, parce qu'il fallait s'éduquer. Et en fait, on ne voyait jamais la couleur du Bourgogne. Et donc, c'est pendant cette armée, ce service militaire, où j'ai cassé ma solde dans un restaurant, un bar à vin, un restaurant que fournissait mon père, et pour boire ce vin, goûter ce vin pour la première fois. Et là, je me disais, bon, je vais peut-être me laisser prendre par l'illusion ou par une projection. Et puis en fait, non, l'ivresse m'a pris, et le copain qui était là, lui aussi. Et c'est ce qui s'est passé, ce que je raconte dans le livre avec la rencontre qu'il y a eu avec Jean-Yves Nau du Monde, etc., qui était là, avec qui on ne sait pas qui été ensuite, enfin depuis notre rencontre, mais surtout, si vous voulez, c'est quand vous sentez que d'un seul coup, dans un vin, il y a quelque chose d'autre qui est tapis à l'intérieur, qui passe par le liquide et qui n'est pas dans les saveurs. C'est autre chose, c'est la source de la saveur, c'est une vibration, c'est quelque chose qui vous illumine. Et vous dites, et c'est comme ça que m'est venue cette idée de lumière dans le vin, la lumière de la matière. C'est que, et c'est la phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et moi, je paraphrase en disant « On ne goûte bien qu'avec le cœur, l'essentiel est impalpable pour les papilles. » Parce qu'il y a des vins où il y a autre chose. Et sur des grands terroirs, avec des vignerons qui ont lâché prise pour laisser, qui n'ont pas essayé de corriger pour donner un goût au vin, pour le rendre séduisant, non, qui ont laissé le terroir parler, eh bien, on a cette dimension qui vient nous percuter le cœur. Et d'un seul coup, on sent qu'il se passe quelque chose en nous et qui dépasse de loin le palais.
C'est le sujet véritablement de votre film, hein, Marie-Ange Gobranewski, L'âme du vin. Mais avant d'avoir fait ce film, vous n'aviez pas tellement de relation avec le vin, en fait.
Non, c'est vrai que...
Vous avez une révélation à un moment donné ou...
Oh, une révélation, non. En fait, je me suis toujours demandé ce qu'était un grand vin. Et justement, j'avais jamais eu cette culture du grand vin. J'aime le cinéma, la littérature, la peinture, la poésie. J'ai fait des études d'histoire de l'art, donc... L'art, j'ai rencontré, mais les grands vins, j'avais jamais rencontré. Et justement, je me suis demandé ce que c'était. Donc,
Et aujourd'hui, vous savez ce que c'est?
Alors, savoir ce que c'est.
Parce que vous avez filmé des gens, véritablement, oui. Qui eux savent ce que c'est. Ou disons qu'ils tentent de mettre des mots,
oui,
sur ce que c'est.
Oui, en fait, ils ont rencontré le vin et ce sont des grands serviteurs du vin. Dire qu'on connaît le vin, c'est un peu difficile. Bernard Noblet, qui est l'ancien chef de cave de la Romanée Conti, que j'ai filmé, qui parle dans le film, quand je l'ai filmé, je lui ai dit « Bernard, vous qui connaissez le vin ?» Et il m'a dit « Mais ne dites pas ça, on ne connaît jamais le vin. » C'est comme une personne, on n'en fait jamais le tour. Et Bernard Noblet a été pendant 35 ans chef de cave du domaine de la Romanée Conti. Donc si Bernard ne connaît pas le vin, je ne peux pas vous dire que je le connais. Mais en tout cas, je l'ai rencontré. Et je l'ai rencontré et j'ai rencontré quelques-uns de ses grands serviteurs. Et des gens qui sont là pour respecter le terroir, pour l'exprimer, pour qu'ils prennent soin de la vigne, qu'ils prennent soin de leur vin, qu'ils prennent soin de ce patrimoine dont ils sont propriétaires ou pour ceux qui travaillent pour eux, salariés. Mais c'est un patrimoine qui dépasse même le patrimoine français. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette identité française du vin, mais c'est un peu un patrimoine de l'humanité. Le symbole de la vigne et du vin dépasse nos frontières. Voilà. Et donc, je me demandais ce qu'était un grand vin, mais en fait, c'est vraiment une culture, le vin.
Philippe Tonnard, vous avez eu une rencontre avec le vin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue 12 degrés 5.
Non, j'ai pas eu une rencontre particulière. J'ai des rencontres presque tous les jours, en fait. Je peux avoir un très beau souvenir qui date d'avant-hier, comme je peux avoir un souvenir d'un Noël d'il y a 15 ans. Avant-hier, c'était un Château Simone rouge 2014.
J'adore le Château Simone.
En AOC palette, voilà, juste pour deux, tranquillement, à la maison. C'était juste beau. Et puis le souvenir de lèvres trempées dans un jurançon moelleux à un Noël il y a une vingtaine d'années, ouais, voilà. Mais c'est tous les jours la rencontre, je trouve.
Mais par rapport à cette notion de grand vin, quand même, parce que là, ce que disent Bruno et Marie-Ange, c'est qu'il y a, il y aurait
mystique
quelque chose
de
mystique. Comment vous percevez ça?
Alors moi je l'ai perçu d'une autre façon par rapport à un livre qui sort cette semaine sur les clos. Et comme disait Bruno, il y a une âme chez certains vignerons, notamment dans les clos, quand on rentre dans un clos et quand on goûte le vin de ce clos et donc du travail de ce vigneron. Là, on est pris par quelque chose qu'on n'a pas forcément sur une parcelle de plusieurs hectares qui n'est pas entourée de murs. Et voilà, ça a été une vraie révélation, en revanche. Ce côté un peu mystique, un peu étonnant de découvrir des produits dont on sent qu'ils n'ont pas été faits de la même manière que la vigne d'à côté qui est soit en conventionnel, soit pas du tout conduite en clos.
Marie-Ange Guilbeault est restée pendant cette émission. Ce n'est pas toujours le cas.
Dès qu'il est question
de terrorisme ou de femmes voilées, elle s'en va. Mais manifestement, pour le vin, elle est restée. Et vous, Marion, vous avez une histoire personnelle avec le vin, quand même. Ouais, depuis quelques années.
Oui, depuis quelques années, oui, bien sûr, ça m'intéresse le vin. Mais en fait, ce qui est assez génial avec moi, ça a commencé avec, comme avec la musique, en fait. J'ai fait un parallèle musique et vin. Et en fait, on parle de, parce qu'il y avait un vocabulaire commun au départ, on parlait de notes, on parlait de finales, de choses comme ça. Donc voilà, donc je m'y suis intéressée. J'ai eu la chance après de rencontrer des gens qui œuvraient pour le vin naturel depuis le début. Et puis j'ai commencé à boire du vin comme ça. Et voilà. Et après, le grand vin, moi, je sais pas ce que c'est. Je bois des choses régulièrement, des choses à des petits prix, des choses à des grands prix aussi. Et moi, je suis assez d'accord sur le côté, en tout cas, qu'il se passe toujours quelque chose dans un terroir et que c'est ça qui est important. Et que quand on vous dit « Oh, j'ai bu un super Bordeaux ou un super Côte-du-Rhône », ça veut rien dire. J'ai besoin de savoir le vigneron, j'ai besoin de savoir la cuvée, j'ai besoin de savoir l'année. Et que comme ça, on arrive peut-être à dessiner quelque chose du vin.
Voilà. Et vous, Stéphane Ballet, quel est votre histoire avec le vin, puis après ce tour de table, on passera à autre chose.
Eh bien, j'ai compris en faisant le film Vitis Prohibita que quand j'étais tout petit, à l'âge de 5 ans, on mettait déjà un peu de vin dans mon biberon.
Ça, c'était pour vous calmer.
Voilà, certainement pour m'envoyer au lit. Et en fait, en discutant avec mon père, je lui dis « Mais attends, mais ce vin, c'était pas du Clinton ?» Parce qu'on était dans les Cévennes, et il me dit « Bien sûr, c'est du Clinton. » Voilà. Donc, j'avais déjà une histoire avec ces vins dont j'ai fait le film là, déjà, qui remonte à très très longtemps.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi, pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la vite et le cul. Mais rien de plus.
Tu m'as vu?
Tu m'as vu?
Tu m'as vu?
Nu. J'aime être.
Avec toi, Catherine, dans le NRV sur France Inter. Ce sera une journée spéciale le 7 novembre en direct de Poitiers. Catherine qui sera aussi l'invitée de Côté Club le 15 novembre prochain. Une programmation droguée de Baptiste Audibert à défaut d'être bourré.
Rendez-vous. On a classé les cépages d'abord pour la France et pour l'Europe. Vous n'avez pas le droit de cultiver ce que vous voulez. C'est la liberté tenue. La vraie liberté, c'était avant 1950, chacun plantait ce que voulait, on le foutait la paix. Depuis, on est dans l'administration, dans les jugements, tout le bordel à Bruxelles, c'est Bruxelles qui commande. Nous, la France, on suit derrière.
France Inter, Laurent Goumard.
Alors, dans chaque département, vous avez des cépages recommandés que vous pouvez planter. Il y a des cépages autorisés qu'on trouve pas bons, qui ont été classés avec des abattements sur les droits de plantation. Et puis les autres, c'est les cépages tolérés ou interdits.
Michel Galabru est toujours vivant. C'est Pierre Gallet qu'on vient d'entendre.
C'est le fabuleux Pierre Stéphane Gallet, ouais. Qui est un ampélographe, c'est le pape de l'ampélographie. Il a aujourd'hui, il approche ses 99 ans, il est toujours en train d'écrire des livres. C'est une encyclopédie vivante.
Qui est filmé dans Vitis Prohibita, hein, qui sort...
Que vous avez rencontré pour le film. Oui.
Alors dans ce film, justement, vous revenez sur ce que vous appelez la tentative d'assassinat réglementaire, la mise au ban d'une poignée de cépages, c'est-à-dire des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d'avoir mauvais goût, de rendre fous. Pour quelles raisons, véritablement, les a-t-on interdits ?
Il y a la raison officielle et la raison officieuse. Déjà, ils avaient des forts rendements. On parle dans les années 30. Hein. Mm. Donc, ils ont été interdits pour assainir un petit peu et réguler un peu la production. Ça, c'est la première vague de prohibition. Il y a eu 6 cépages qui ont été...
Interdit.
On a l'Isabelle, le Jacquet, le Clinton, l'Herbemont, le Noah et l'Othello. Voilà, ceux-là, ils sont toujours interdits formellement.
Pour autant, on en a un sur la table.
Pour autant, oui, mais alors, interdit, c'est tout là l'intérêt. Ouais. C'est interdit à quoi ? T'es interdit de quoi ? Donc, ils sont interdits à la commercialisation. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un avenir professionnel avec ces vins-là. Voilà. Plus tard, après la guerre, à la fin des années 50, sont arrivés un nouveau bouleversement dans la profession, avec les classements des cépages, la mise en place des régions, la régionalisation, etc. Et on a mis au banc la quasi-totalité d'une catégorie de vins, les vins hybrides.
Et c'est-à-dire les vins hybrides.
Alors vous avez nos cépages européens, les Vitis vinifera, voilà, c'est une espèce, Vitis vinifera, et vous avez les hybrides qui sont donc une hybridation entre ces cépages-là et d'autres espèces telles que Vitis labrusca, Vitis riparia, voilà, ce sont d'autres espèces avec des goûts différents et des caractéristiques différentes.
Donc voilà. Ces vins-là ont été mis au banc aussi.
Ces vins-là ont été mis au banc. Certainement pour de bonnes raisons. Je ne conteste pas le fait qu'à l'époque, il fallait faire quelque chose pour assainir, pour augmenter la qualité des vignobles. Voilà, sauf qu'en faisant ça, on s'est privé de toute une partie de cépages qui sont naturellement résistants aux maladies. Et c'est quand même un petit peu dommage. Alors à l'époque, faut quand même se remettre dans le contexte. On pensait que, et en toute bonne foi, que la chimie pouvait résoudre tous les problèmes. Donc on pouvait traiter et puis il y avait un problème de champignons, de maladies, de quoi que ce soit. Hop, on traitait et on réglait tous les problèmes. Voilà. Aujourd'hui, on est plus regardant parce qu'évidemment, on se rend compte que c'est pas sans conséquence. Voilà. Et ces cépages qui sont aujourd'hui interdits, on les a accusés un petit peu de tous les maux. Effectivement, on a dit mais ils sont pas bons, ils font du mauvais vin, ils font voilà, parce qu'il fallait bien les écarter, il fallait bien trouver des motifs, voilà.
Mais ils sont toujours cultivés alors, puisque il y a une bouteille d'Isabelle sur le. Mais alors ils servent à quoi ?
Eh ben, ils sont cultivés parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, mais pas forcément professionnels. Et par exemple, dans les Cévennes, toute la première partie du film que j'ai tourné, c'est quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine. C'est très important. Ils sont extrêmement attachés à ça. Oui.
Bon, donc, ils sont bons,
c'est
vrai.
Alors, c'est plus compliqué. Enfin, pardon, hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut connaître l'histoire de France bien avant. Faut savoir qu'en 1788, 75% du vignoble français est planté en Vitis vinifera, en cépage noble, et les plantations de vignobles françaises sont sous décret royal. Parce que la France est le pays du vin dans tout l'Empire européen. Vraiment, on est au-dessus du lot partout. L'Italie a des cépages nobles, l'Espagne aussi, mais ce sont des plantations marginales. Donc il y a un attachement profond à ce Vitis vinifera qui va révéler le terroir plus que les cépages communs. On a déjà des cépages communs à l'époque, hein, il faut pas l'oublier quand même. Hein. C'est arrivé depuis longtemps puisque les États-Unis, il y a longtemps qu'on a fait la conquête et qu'on a des cépages communs. Et les cépages communs étaient considérés comme pas obligatoirement mauvais, mais n'avaient pas la capacité à révéler le terroir de la même façon que les cépages Vitis vinifera. Et puis, à la Révolution française, on a arraché énormément les vignes nobles, parce que on a planté énormément de plants communs. On est passé de 30 millions d'hectolitres.
C'est un effet de la Révolution aussi, donc parce qu'un effet idéologique.
Voilà, il faut remonter à l'histoire pour comprendre comment la culture française fonctionne. Donc là, il se passe un arrachage colossal. La Bourgogne va résister pour pas arracher son pinot noir, qui est, voilà, et puis qui vient de, le vignoble bourguignon est plus en avance parce que Cluny et Citeaux sont nés là. Hein, donc il y a une espèce de mythologie forte et un attachement très fort. Mais les autres vignobles, par exemple le vignoble de l'Orléanais, qui est un très grand cépage, territoire de vignobles, va disparaître pratiquement. Hein. Il reste pratiquement plus rien dans le vignoble de l'Orléanais. Et d'autres vignobles vont disparaître.
Et donc à la place des cépages communs.
Voilà, on va planter des cépages communs en grande quantité et on va passer de 30 millions d'hectolitres hectares en 1788 et dans les années qui vont suivre la Révolution, on va être à 70-90 millions d'hectolitres. Hein. Donc des cépages plus productifs. On est obligé à l'époque de rajouter du sucre. Donc Chaptal, en 1804, qui est ministre de l'Industrie, va faire ce décret de chaptalisation pour arrondir les vins, etc. Ce qui va se passer à la restauration, on n'exporte plus. Là, on n'exporte plus de vin. Le vin français n'a plus d'image. Et donc, à la restauration, on va commencer à vouloir replanter des vignes nobles. Et puis ensuite, il va y avoir Napoléon III qui va vraiment insuffler une vraie force avec en faisant les classements, demandant le classement des grands crus de classés de Bordeaux et les grands crus de Bourgogne. Donc ces classements en 1855 qui vont redonner une image. En fait, ces classements ont été faits redonner une image. Voilà. Et donc tout ça va faire que, au fur et à mesure, malheureusement, beaucoup de cépages, même Vitis vinifera, vont disparaître.
Oui.
Vont disparaître parce qu'on n'a pas, on n'a plus les plants. Et ensuite, il y a le phylloxéra qui va arriver. Le phylloxéra qui va se développer. Il faut pas oublier qu'il s'est pas développé seulement avec les plants communs. Il s'est développé aussi parce que on savait plus planter les cépages Vitis vinifera. On ne connaissait plus l'entretien d'un sol de vigne. Et donc, on a planté les cépages communs nobles comme les cépages communs, sans connaissance qui étaient dans les monastères depuis 1000 ans et sans pandémie viticole. Il n'y avait pas de pandémie, il y avait très peu de pandémie dans le milieu de viticole. Et donc, à partir de ce moment, on plante les plants nobles comme les plants communs. Et là, arrive un véritable massacre, l'oïdium, le mildiou, le phylloxéra en moins de 30 ans. C'est un carnage. Là, on va réarracher. Et on va replanter, mais on se rend, là aussi, on va encore faire disparaître un nombre de cépages incroyables. Ça va être une catastrophe au début parce qu'on va mal greffer, etc. Beaucoup de cépages ont été arrachés, pas parce qu'il y avait le phylloxéra, mais parce que tout simplement, un plant greffé produit 2 à 3 fois plus qu'un plant non greffé. Donc quelqu'un qui a greffé, les voisins disent, faut arracher nos vignes non malades. Pour les planter, voilà. Et donc, cette succession de choses va faire que, ensuite, il y a l'AOC qui va supprimer encore, parfois, des bons cépages, parce qu'on est dans l'époque productiviste, et donc, il faut produire.
Faut du rendement.
Et on va arracher des cépages qui donnent peu, mais qui sont très bons. Et donc, aujourd'hui, on fait 90% de nos vins avec 15-20 cépages en France.
Si on goûtait de l'Isabelle, Stéphane Ballet.
Comment on s'organise?
Je ne sais pas, Benoît Lagan s'est précipité. C'est la première fois que je vois courir. Généralement, on l'appelle la marmotte, mais là... La marmotte...
Vous avez déjà vu Laurent Goumin?
Pas du tout.
On fait passer les verres.
On va passer les verres. Très radiophonique comme émission. Et hop, c'est bon. Marion Guilbeault, Bruno Quenu a déjà...
J'ai déjà trempé les lèvres.
A déjà trempé ses lèvres.
Mais très sucré. Ouais, c'est sucré, Isabelle, ouais.
Mais c'est très sucré. On dirait du Coca-Cola. Je plaisante, ça n'a rien à voir. Marion,
il y a beaucoup de sucre, ça c'est évident, c'est le premier truc. Après, c'est un peu... Ça descend assez vite, je trouve, en bouche. Ça reste pas très longtemps en bouche, ça descend assez vite.
Oui, c'est presque étonnant. Alors déjà, je connaissais pas le cépage Isabelle, j'ai découvert dans votre documentaire. On est presque sur un vin de dessert, en fait. On savait pas, on serait presque un muscat, un vin doux naturel, presque. Mm-hmm. Ouais.
Non, mais les raisins d'Isabelle sont cueillis sans surmaturité aux alentours de 15 degrés, facilement. Hein.
Mmh. Voilà, oui, donc, vous savez ce que je viens de voir
dans le
studio?
C'est pour ça que ça finit pas de fermenter et ça, on a toujours des
sucres. Marion Lelay qui est venue chercher la bouteille pour la présenter à Zabel. C'est ce que je viens de voir. La bouteille a été prise du studio directement dans la cabine technique. Bravo.
On n'a pas amené une Conti.
Non, heureusement, vous imaginez.
On peut partager.
C'est quoi l'histoire de ce vin précisément? Il est pensé comment? Enfin, donc vous nous l'avez ramené. Donc il est produit par qui précisément?
Alors là, c'est un vin d'Italie. J'aurais pu ramener le vin des Cévennes. On en a beaucoup dans les Cévennes, mais bon, il se trouve que dans ma cave, il restait juste cette bouteille là.
Il a le même goût dans les Cévennes?
Pardon?
Il n'a pas le même goût dans les Cévennes.
Bien sûr qu'il a le même goût, oui. Oui, oui.
La cuvée Isabelle, le terroir est le même en Cévennes et
c'est
en Italie.
C'est-à-dire que c'est un cépage qui est tellement particulier, ouais, qui a des caractéristiques tellement propres, avec des goûts de fruits, mm-hmm, de fruits des bois, de voilà, quelque chose qui l'exalte comme ça. On le reconnaît entre mille, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Et donc, c'est un vin qui n'est pas professionnel, c'est un amateur, un Italien. Il a une entreprise, il fait de la quincaillerie, il a un grand bâtiment, et à l'arrière du bâtiment, il a installé sa cave.
Il est complètement hors la loi, en fait.
Non, pas du tout.
Non, mais il ne peut pas le commercialiser.
Il ne le commercialise pas. En fait, c'est les cadeaux, il offre les bouteilles à ses clients et ses fournisseurs.
On achète deux écrous, on a droit à une Isabelle.
Il y a beaucoup de clients.
C'est vrai? Ah oui, d'accord.
Il a coulé tous les quincailliers du coin.
C'est ça, c'est un Italien.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard, sur France Inter.
Taking all
Into the Surf avec le son anglais des Falls, on prend la vague sur France Inter.
Mon père, durant les années 60-70, n'a jamais utilisé de fertilisant, de potasse, d'engrais pour fertiliser la vigne, ni de produits de synthèse pour traiter. Il a toujours gardé ses convictions terriennes, qui voyait que ses vignes allaient bien, que ses sols étaient vivants, que ses vins étaient très bons, et il voyait que c'était complètement contre nature d'amener tous ces fertilisants-là. Et ça, c'est une grande chance, parce que c'est rarissime aujourd'hui d'avoir eu cette sagesse dans ces périodes qui étaient prônées par tout le monde à l'époque.
Le travail dans les vignes, c'est une partie du sujet de ce nouveau rendez-vous ce soir. Pour en parler, le spécialiste du vin Bruno Quenioux, le rédacteur en chef de la revue 12 degrés 5, Philippe Toinard, et les réalisateurs Stéphane Ballet pour son film Vitis Prohibita, qui sort en salle aujourd'hui, et Marie-Ange Gobanewski pour L'âme du vin, qui sortira la semaine prochaine. On vient d'entendre un extrait à l'instant, Marie-Ange Gobanewski. C'est Frédéric Lafarge, vigneron bourguignon. Quelle est la spécialité de son vin ?
Quelle est la personnalité de ces vins, en fait? La première fois que je suis allée rencontrer Frédéric Lafarge dans son domaine à Volnay, il m'a fait goûter ses vins en cave. Il avait des petites bouteilles et il m'a fait goûter chaque vin. Et moi qui suis pas du tout un expert en vin, j'ai été très étonnée parce que il me faisait goûter un vin joyeux et l'autre vin était élégant. Chaque vin avait un caractère, alors que toutes les parcelles sont à peu près sur le même village. Donc c'est la particularité de Frédéric Lafarge, c'est que ses vignes font vraiment partie de sa famille. Et il parle de son père dans l'extrait que vous nous avez fait écouter. On voit son père après dans le film. Et son père, on est allé le voir hier justement à Volnay. C'est un monsieur de 91 ans. C'est un monsieur extraordinaire. Tous les vignerons que j'avais rencontrés m'avaient dit « Il faut que vous voyez Michel Lafarge ». Et Michel Lafarge, qui a 91 ans, est un des rares vignerons qui n'a jamais rien mis de nuisible dans ses vignes. Ils étaient quelques résistants en Bourgogne, mais ils pouvaient être comptés sur le doigt d'une main. Les gens qui n'ont jamais rien mis, alors qu'on les prenait pour des fous, parce que tout le monde mettait des pesticides, des engrais chimiques, enfin, toutes ces choses-là.
Philippe Toinard, vous connaissiez
non, je le connaissais pas comme ça, mais il y en a plusieurs dans chaque région. C'était bien dans l'extrait de rappeler effectivement que c'était une période. Il y a eu une période où l'agriculture, qu'elle soit viticole ou qu'elle soit céréalière ou autre, c'était de retrouver de la productivité et donc de faire du rendement et donc d'utiliser des pesticides, des insecticides. Aujourd'hui, on en revient. Il y a une nouvelle génération qui est en place. Il y a des anciens qui ont compris qu'il fallait aussi revenir à ça. Leurs enfants s'y mettent. Aujourd'hui, en bio, par exemple, c'est 65 000 hectares qui sont en bio. Ça progresse de 7
en
à
10... En bio ou en biodynamique?
En bio, globalement. Qui ont le label AB. C'est à peu près entre 7 et 10% chaque année de plus. Si on compte ceux qui sont en reconversion, donc ils ont 3 ans, donc les 1, les 2 et les 3 années, on arrivera à plus de 94 000 d'ici 3 ans. Donc voilà, on est sur un mouvement qui prouve bien qu'on rejoint un monsieur comme ça qui, lui, a résisté et d'autres vont suivre le glorieux sujet de cette année.
Quand vous avez créé votre revue 12 degrés 5, quelle était l'idée en fait? Quels étaient les vins que vous vouliez défendre? Les vins en biodynamie, les vins naturels, les vins bio?
Oui, c'est ça, vous avez cité les 3. L'idée, c'était pas forcément de défendre les vins, mais défendre les hommes qui ont décidé que la terre avait suffisamment souffert pendant des décennies et qu'il fallait passer à une autre viticulture où le terroir reprenait le dessus, où le lombric retrouvait sa place. J'ai vu ça dans le film de Stéphane. Voilà, il fallait mettre en avant ces gens qui ont décidé de travailler un peu comme la génération des années 40, 45, 50 qui eux n'avaient jamais vu la tête d'un pesticide.
On n'y comprend pas toujours quand on vin naturel, bio, biodynamique. Effectivement, Laurent le disait. Et d'ailleurs, je crois que chez les experts aussi, on n'aime pas trop ce combat entre les mots. C'est quoi cette guerre qu'il y a autour de ces mots-là, Bruno Quenioux?
En fait, il y a plusieurs choses. La bio, on a démarré la bio. Il y a eu un gros mouvement dans les années 60 avec des mouvements qui étaient plus d'ordre idéologique. C'était avec parfois des pensées sincères, mais avec une vision du vin qui n'était pas toujours celle que nous on prône, c'est-à-dire des vins de haute tradition et qui racontent véritablement le terroir. Donc il y a eu une très mauvaise critique en France sur le bio. Moi, je faisais partie des gens qui défendaient le bio d'un côté et en même temps tapaient sur les vignerons bio parce que les vins étaient vraiment, quand on allait dans une biocoop acheter du vin, je vais vous dire, fallait avoir les dents bien serrées, hein. Voilà. ça fallait passer chez le dentiste après. Et en fait, donc ce qui s'est passé, c'est qu'après tout doucement, il y a eu le mouvement de la biodynamie qui est arrivé derrière. Alors la bio, c'est quoi? C'est si on le réduit juste au label, c'est la non-utilisation de chimie sur la vigne et sur le sol. Donc on a juste droit au soufre et au soufre jaune, au poudre, en poudre, hein, et à la bouillie bordelaise, qui est donc les gens quand ils voient de la bouillie, un truc bleu, ils se disent ah ça doit être mauvais. C'est la bouillie bordelaise, c'est autorisé en bio, c'est du sulfate de cuivre avec de la chaux et du soufre. Enfin la chaux, on n'est pas obligé d'en mettre, mais souvent il y en a qui mettent de la chaux en plus et du soufre jaune, du soufre mouillable comme on appelle. Et donc ensuite il y a eu la biodynamie qui est arrivée. La biodynamie va rajouter les préparats de Rudolf Steiner, que ce soit des tisanes ou des préparats animaux, hein. Après on peut être contre philosophiquement ou pas, hein, parce que c'est aussi ça touche à des visions qui peuvent être très particulières, mais il y a des gens, les plus grands vignerons, si vous voulez, ils utilisent ce qui les intéresse de la biodynamie. Ils sont pas obligés d'utiliser tout le pack de la biodynamie.
Et dans le film justement de Marie-Ange Gorbanowski à propos de la biodynamie, on dit que ça déstresse, la vigne.
Répare et cicatrise. Et la vigne. Répare...
Oui, c'est Frédéric Lafarge qui dit ça. C'est Frédéric qui nous parle de la biodynamie. Oui, il a vraiment à cœur que ces vignes soient heureuses. Et il le dit plusieurs fois dans le film, et moi je l'ai vu très souvent travailler pour préparer mon film, pour aller le filmer, et pendant le tournage, et c'est vrai que il est chouchoute, et c'est vrai que pour lui ça l'est. Ben, si vous voulez, c'est un petit peu comme la différence entre l'allopathie et l'homéopathie, comme quelqu'un qui serait gavé d'antibiotiques régulièrement et quelqu'un qui se soignerait autrement par de la médecine douce. Donc pour lui, c'est un peu de la médecine douce. Sachant que dans le film, tous les vignerons que j'ai filmés sont en biodynamie. Il y en a juste un qui est en bio et les autres sont en biodynamie. Alors, on parle pas beaucoup de la biodynamie dans le film. On montre surtout le travail. C'est un film d'images, de sensations, d'impressions. On les voit travailler, on rentre dans l'intimité de leur travail.
On laboure avec un cheval.
Enfin, on laboure, à la Romanée-Conti, on laboure plusieurs parcelles du domaine à cheval de novembre à juillet. Et même le laboureur que j'ai revu hier nous expliquait qu'il fait encore des recherches. En fait, ils analysent la terre régulièrement pour voir toute la micro vie qu'il y a dans la terre pour essayer que les labours soient doux. Parce qu'un labour doux, ça fait respirer la terre, ça aide les micro-organismes à vivre, ça ne la violente pas. Il faut pas violenter la terre. Et ces grands vignerons m'ont expliqué, et Bernard Noblet aussi, l'ancien chef de cave de la Romanée-Conti, m'expliquait que la biodynamie permettait vraiment d'exprimer avec beaucoup plus de finesse le terroir dans les vins. Ils sont en biodynamie depuis plusieurs années, enfin un certain nombre d'années, et à la dégustation, ils se rendent compte que l'expression du terroir est plus nuancée, plus fine dans leur vin.
Alors, il y a un autre sujet qu'on aurait bien aimé aborder, c'est le sujet de l'écologie, notamment plutôt du climat avec le réchauffement climatique, Benoît Lagan.
Oui, parce que est-ce que face aux enjeux climatiques, est-ce que, par exemple, Philippe Tonnard, vous voyez des terroirs, des cépages menacés, des vignerons inquiets par rapport à ces questions-là, ou qui commencent à préparer le terrain pour changer, évoluer?
Alors il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sont un peu inquiets, effectivement, ceux qui sont éventuellement plus au sud. Et il y a ceux qui se disent c'est une bonne nouvelle pour pouvoir replanter dans des régions où le vin était banni depuis longtemps. Et on voit en Bretagne par exemple qu'on replante depuis presque une bonne décennie Surtout qu'il y a une nouvelle loi européenne qui est passée qui les autorise maintenant à replanter. Donc les Bretons sont les Bretons, les Normands dans le Nord-Pas-de-Calais, on commence à trouver des vignes, se disent que peut-être effectivement on va pouvoir, grâce à ce réchauffement climatique, alors on verra la qualité des vins, on n'en est pas là, hein, mais avant que ça donne un petit peu. Mais il y a peut-être un nouveau métier de viticulteur breton, normand ou nordiste qui va se sortir grâce à ce changement climatique, peut-être.
Mais Bruno Cagnon. Le sud de la France a fait de grosses erreurs, hein, parce que ils ont bénéficié à un moment donné. On était dans l'époque où on goûtait les vins, fallait de la puissance, fallait de l'alcool, fallait du tanin, et donc on a planté de la Syrah dans le sud de la France. La Syrah, c'est les anciens disaient la Syrah ne passe pas la frontière des oliviers, elle ne passe pas à Valence. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle vient du nord de la vallée du Rhône, elle vient même de la Mondeuse Blanche de Savoie. Et donc, on a planté la Syrah dans le sud. Alors, je dis aux vignerons qui s'inquiètent, je leur dis, mais c'est vous qui avez changé le climat de la Syrah. Pour l'instant, vous n'avez plus changé que le changement climatique. Donc, c'est vrai que dans le sud, elle fait 16 degrés. Mais quand elle est au nord, elle fait 12 degrés. Donc, s'ils replantent du Cinsault qu'ils ont complètement oublié, ils auront des grands vins à 12 degrés 5. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur patrimoine de cépages anciens de la région.
Dans votre film, ça vous a amené jusqu'où, en fait? Votre film. Vous partez de l'Ardèche, vous allez jusqu'où avec ces vins interdits?
Alors j'ai déjà fait un tour d'Europe.
Stéphane Ballet, ouais.
J'ai déjà fait un tour d'Europe, donc en Italie, où j'ai ramené les vins qu'on a dégustés. Je suis allé en Autriche, en Roumanie. Je voulais voir comment ces pays réagissaient face aux interdictions. Et je me suis rendu compte que dans chaque pays, la loi est adaptée. Elle est, par exemple, en Autriche, il y a une tolérance, une dérogation spéciale jusqu'en 2030, où on peut faire du vin. Ils appellent le Hudler. C'est dans le Burgenland. Et donc, c'est un vin qui est très prisé, qui est très connu et qui fait la renommée de la région. Mais voilà,
qui à terme sera interdit.
Ben, s'ils font rien pour prolonger la dérogation, ou si les lois européennes ne changent pas, effectivement, en 2030, tous les vignerons devront arrêter de produire ce vin-là. C'est pas, alors le Hudler, c'est pas un cépage, hein, c'est un assemblage avec différents cépages, dont les interdits. Voilà.
Et en Roumanie,
alors la question, elle était différente parce que ils ont intégré l'Europe en 2007 et ils avaient une dizaine d'années pour se conformer aux lois européennes. Moi, je les ai filmés justement à la fin 2017 et en fait, on se rend compte que c'était impossible pour eux de se plier et de bouleverser leur économie. C'est un pays où la moitié de la surface des vignobles est plantée en hybride. Donc ça remet en question absolument tout le processus. C'est aussi le pays d'Europe où on trouve le plus de petites entités de production. C'est là où il y a le plus de viticulteurs, en nombre. Alors c'est des petites entités, c'est des petites familles.
Oui,
et ça fait vivre des familles. Vous leur retirez ça du jour au lendemain, mais c'est terrible. Ils peuvent pas se lancer dans une transformation de leur activité en investissant dans la vigne noble qui va demander de la main d'œuvre pour traiter, les produits pour traiter, les machines pour traiter, etc., etc. C'est pas possible, c'est pas à leur portée. Voilà. Donc il y a une sorte de tolérance sur les marchés où les inspecteurs ferment les yeux quand, bon, c'est dans des petites quantités, ils disent rien, voilà.
Et jusqu'à quand? Eh bien, ce sera le sujet d'un prochain débat avec vous tous. Merci d'être avec nous. Vous restez encore un petit peu. On va parler musique en live avec Marion Guilbeault. All right, let's have a
little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Oui, parce que, comme vous nous l'avez dit, parler de musique ou de vin, c'est à peu près la même chose.
Il y a des ressemblances, il y a des points communs. Alors, avec leur compatriote Hubert Lenoir, ils font partie de cette scène québécoise qui dépoussière la pop. Ils, ce sont les Louanges, ou plutôt lui, Vincent Roberge. C'est la tête pensante, il est en bonnet noir et en pantalon orange ce soir, de ce projet. Un projet pour lequel il a inventé son propre langage musical. Je le cite, c'est de la pop groovy, avec du rap qui dépote, du français avec de l'américain, de l'argot avec de la philo. Liberté de ton et de son, donc, pour les Louanges, un son hybride que cet ancien jazzman a imaginé d'abord en jouant dans les rues de Québec avant de succomber à la magie de la MAO. Alors, les chansons des Louanges, elles jouent sur la bipolarité entre l'autofiction et une poésie psychédélique. Ils sont en train d'écrire leur propre success story. Par exemple, au dernier gala de La Disque, c'est l'équivalent de nos Victoires de la musique, leur premier album, La Nuit est une panthère, a raflé 3 Félix, celui de la critique, celui de l'album alternatif et celui des arrangements. Et je vous disais tout à l'heure qu'ils écrivaient leur propre success story, bah ça passe par un passage obligé au énervé ce soir. Et juste avant de jouer, on a quelques petites questions pour vous. Bonsoir Vincent, ça vient d'où ce nom, les Louanges? Il y a une connotation religieuse là-dedans?
Oui, ben en fait, j'étais une jeune brebis égarée. Un jour, j'ai eu l'illumination. Hein.
Ouais.
Je me promenais dans un, au travers des vignes. Non.
Les vignes de Québec, bien
écouté.
Sûr.
Oui, oui. Oui, les grandes vignes, quoi qu'on
oui.
en a. Quand
ben, il y en a, oui. Bien sûr.
C'est plus jeune, mais ça s'en vient. Non, en fait, c'est un surnom. C'est un surnom que j'ai depuis l'adolescence qui prend racine dans des... dans un sol un peu flou, en fait.
On vous appelle mais ça vient d'où
végétaux.
Louange, c'est-à-dire, on vous appelait Louange, vous surnommez
ouais,
Louange.
Ouais, on a déformé mon nom à outrance jusqu'à le transformer à...
du Robert Jamour, je sais pas moi, mais bon. Okay.
Mais je me le suis approprié, faut croire. Puis quand il était le temps de faire mon projet solo, d'avoir mon nom d'artiste, ben. Ça donne un peu plus de mystère que Vincent.
Ben oui. Et juste une dernière question, parce que sur votre dernier EP, Expansion Pack, il y a un titre qui s'appelle Arbois. Ouais. Il y a un rapport avec le vignoble?
pas vraiment. Il y a un rapport avec beaucoup de vin, peut-être. Mais ouais. Ça, faudrait demander à la demoiselle qui a eu la courtoisie de me prêter l'enregistrement sonore. Que j'ai... En fait, c'est pas moi qui chante sur la chanson. Là. C'est ouais. juste, on était là, en fait. On était dans la région d'Arbois. C'est là que j'ai récolté l'extrait sonore.
Ah, bah, on écoutera ça la prochaine fois. Bon, bah, c'est à vous, les louanges. On vous écoute.
Le fait que j'aurais pas su t'aimer. On me dit à l'oreillette, je risque de regretter. Mais je risque de pas trop avoir le temps d'y penser. Parce qu'on voit quoi, quoi, que non plus sur la route. Oui, ça me tue d'avoir été qu'un cheveu dans ta soupe. J'avais dit donc, attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas, j'attendrai pas. Attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas, j'attendrai pas. Ah, ce n'est pas ri dans le même mois, à jouer devant des gens qui te connaissent pas. Devant des gens qui peut-être s'en rappelleront pas. Du kid qui leur gueulait des choses en québécois à la maison mère. Qui une coupe d'appels manqués. Anniversaire à petite sœur, j'ai presque oublié. Mais j'ai compris, quand tu tombes, personne va ramasser. J'arrêterai pas, non, non.
Merci.
Attends-moi pas, c'est extrait de leur dernier EP Expansion Pack, c'était Les Louanges. Ce soir, Vincent était à la voix, la guitare, Pierre David a joué de la basse et des synthés, Gabriel des claviers, William de la batterie. Ils sont en concert à Bordeaux ce soir, ils auront peut-être du vin là-bas, je sais pas. À Chalon-sur-Saône, ils peuvent boire aussi du vin là-bas le 8 novembre. Et à Saint-Brieuc, bon, pas encore, un coup de cidre.
Bon, bah pourquoi
et bientôt, on sait jamais, ce sera le 13 novembre.
Les gens de Saint-Brieuc sont privés, pas
de vin. Bah non, mais production locale, je parle, bah oui, bien sûr. Ça. Prise de son ce soir assurée par Julien Dumont et Fabrice Desmaz. Merci beaucoup d'être passé par le nouveau rendez-vous.
Yeah, merci.
Merci à vous et merci à nos invités. Merci Stéphane Ballet. Vitis Prohibita est sorti en salle aujourd'hui. Bruno Kenyou, La vie mystérieuse du vin, c'est aux éditions du Cherche Midi. Marie-Ange Gobanewski, L'âme du vin, il faut attendre mercredi prochain. Enfin, Philippe Toinard, les revues 12 degrés 5, 180 degrés sont disponibles en kiosque. Je signale le livre Charcuterie, oui, c'est autre chose, aux éditions La Martinière. Et Les vins du Clos, c'est paru...
Ça va... La Martinière, le 7 novembre.
La Martinière, le 7 novembre. Ben voilà, ça c'était le Énervé première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le Énervé la suite, pour plus de France Inter. Mais demain, au Énervé, quoi qu'est-ce ?
La question de savoir ce qu'est exactement un documentaire continue de susciter un débat dont on a l'impression qu'il ne sera peut-être jamais terminé.
J'espère qu'on sera un peu plus passionnant sur le sujet. Documentaire demain, mutation ou apocalypse. En live, Marion.
Bon, on va rester au Canada, mais version anglophone cette fois-ci. On part du côté de Toronto avec Mormor.
Le NRV, c'est Marion Lelay, bien sûr, à la réalisation. Programmation, préparation, Virginie Rouzic, Clémence Diligent et Benoît Lagan.
Rendez-vous.